Soleil, soleil, soleil,
soleil,
soleil,
soleil
sur Europe 1.
Je vais vous raconter en 5 épisodes l'année 1977. Dans ce premier épisode, Michel Sardou cloué au pilori, l'évasion de Spaggiari, le procès de Messrine, un voleur de linge et la chanson la plus connue du monde, Hôtel Californien.
1977, on de la raconte sur Europe 1.
En janvier 1977, se déroule à Troyes un procès très attendu, celui de Patrick Henry, l'assassin du petit Philippe Bertrand. Avec une question centrale, puisque la culpabilité de Patrick Henry ne fait aucun doute, sera-t-il condamné à mort ou pas ? Son avocat, Robert Badinter, parviendra-t-il à lui sauver la tête ? Il y parvient.
1h15 après le verdict, l'explosion de colère n'est pas encore complètement calmée. Et les avocats qui ont sauvé la tête de Patrick Henry, Maître Badinter et Boquillon, les jurés qui ont accordé contre toute attente les circonstances atténuantes, sont obligés de quitter le palais de justice par des portes dérobées. Tout à l'heure, la foule qui stationne encore nombreuse dans la rue, accrochée aux grilles, cette foule qui scande « à mort » comme un slogan, a cru tenir deux de ses jurés. Ce n'étaient que des inspecteurs de police en civil que les gendarmes mobiles ont dû protéger et enfermer dans leur car aux vitres grillagées. Il y a là encore des gens qui crient « à mort Badinter, à bas la justice, coupez la tête de ce salaud de Patrick Henry ». Mais dans l'enceinte du palais, l'atmosphère était plus sereine et plus digne après le verdict. Maître Ambre, qui défendait la mémoire du petit Philippe Bertrand, rendait hommage aux défenseurs de Patrick Henry, qui avaient su éloigner la mort, éviter une mort de plus dans ce drame déjà si terrible pour deux familles, celle de Philippe et celle de son assassin. Maître Badinter, qui s'était effondré sur son banc de défenseurs au moment du verdict, nous expliquait qu'un grand pas avait été franchi dans le combat qu'il mène contre la peine de mort, mais que celle-ci n'était pas abolie pour autant. Maître Badinter rendait également hommage au courage des jurés qui ont su dominer les passions et élever le débat, échapper à la pression de la rue qui gronde de colère ce soir à Troyes.
La France est en ébullition autour de cette question, la peine de mort. Et c'est là qu'apparaît Michel Sardou, et lui il est pour. Et il le chante.
Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'avocat, j'aurai ta peau, tu périras. Tu as tué l'enfant d'un amour, je veux ta mort, je suis pour.
Mais en février 1977, en tournée en Belgique, Michel Sardou a de petits soucis.
Après La Louvière et Bruxelles, le chanteur Michel Sardou s'est fait chaudement accueillir hier à Charleroi par le comité anti-Sardou, un comité créé à l'occasion de son passage dans la ville. Les manifestants reprochaient au chanteur son message de droite à caractère fascisant.
Le chanteur répond à la polémique par une phrase. Une seule.
Si on défile pour le tour de chant de Sardou, qu'est-ce qu'on va faire pour les revendications syndicales ? Alors on va envoyer des bombardiers.
D'accord. Mais en attendant, le 17 février 1977, à la veille d'un concert de Sardou au Forest National de Bruxelles, une bombe artisanale est découverte dans la salle. Et le lendemain, une centaine de manifestants se massent à l'entrée du concert et sur les banderoles on lit « Il ne peut plus chanter ». Sardou égale sadisme, fascisme, racisme, violence, ultra-droite.
Sardou exagère par moments dans ses paroles, c'est une véritable provocation et je crois qu'il profite vraiment de cette popularité pour imposer des idées vraiment très démagogiques parce qu'en plus il sait très bien où sont les points faibles de la population qui sont, quand on parle de la peine de mort, quand on le présente comme Sardou le présente, c'est-à-dire comme le père qui vient d'avoir son gosse tué. Il est évident que les personnes imaginant qui viennent d'avoir leur gosse tué réagissent évidemment dans le sens où Sardou voulait qu'ils réagissent. Moi, j'ai toujours personnellement considéré Sardou comme étant dangereux, bon, parce qu'il a une très belle voix, il chante très bien. Mais il fait passer, grâce à ça, des idées vraiment qui ne me plaisent pas du tout, quoi. Et il y a beaucoup de gens à qui ça commence vraiment à déplaire.
Mais vous croyez que c'est une bonne solution, l'empêcher de chanter? Vous croyez que ça peut aider?
Je crois qu'il faut faire une manifestation de protestation. Il faut faire savoir qu'on n'est pas d'accord. De là à l'empêcher de chanter et à employer des moyens très violents, là je ne suis pas d'accord. Parce que ce n'est pas comme ça que les gens qui vont à ces spectacles et qui aiment Sardou comprendront nos buts et comprendront en quoi les chansons de Sardou peuvent être dangereuses.
La manifestation se veut pacifique, mais quand même, au cas où, la police est omniprésente pour protéger la tenue du concert.
Vous êtes en train de vous maquiller dans votre loge et pendant ce temps, il y a des centaines de jeunes gens qui hurlent dehors Sardou, fasciste, violeur et assassin.
Ouais. Fasciste, nazi aussi, j'ai vu ça. Ça me fait assez de peine d'ailleurs parce que je trouve ça un peu, je trouve ça très intolérant, très, très excessif. Je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que le nazisme. Ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire, le nazisme. Ils font penser à ces gens qui peignaient des étoiles juives sur les devantures des boutiquiers juifs pendant l'occupation. C'est un peu ça. C'est très exagéré, c'est très partisan.
Mais est-ce que vous pensez qu'ils donnent à vos chansons un rôle qu'elles n'ont pas?
Bien sûr, ils exagèrent les choses d'une façon démente. Enfin, c'est pour servir je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que je vois pas quel est leur intérêt de toucher le tour de chant de Sardou. Enfin, ça changera pas. Ça va pas changer le cours de l'histoire. Je pense pas. Mes chansons, en général, la plus grande partie de mes chansons, c'est quand même pour distraire. Il est vrai que dans toutes ces chansons, il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres. Bon, je pense à la chanson Je suis pour ou...
Cette chanson ressemble à un manifeste.
Non, c'est pas un manifeste, c'est un cri du cœur, si vous voulez. Je me suis expliqué 10 fois là-dessus, je ne suis pas pour la peine de mort, en fait, du tout. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est j'ai un instinct animal à ce moment-là, c'est-à-dire que si on touche à mon fils, c'est ce que je dis dans la chanson, je tue.
Mais Sardou a beau s'expliquer, la polémique prend de l'ampleur. À Toulouse, un cocktail Molotov est lancé contre son chapiteau. À Dijon, on s'en prend à sa voiture. Et à Besançon, le chanteur est attendu par des manifestants armés de manches de pioche et de lance-boulons. Il est obligé d'arrêter sa tournée et il n'interprétera plus jamais « Je suis pour ». En 1995, il dira à Télérama qu'il s'est trompé sur le titre et qu'il aurait dû appeler sa chanson « œil pour œil ».
Samedi à Broadway, ça swing comme un menon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway. Ça signe comme un doudou. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais.
C'était la Java de Broadway de Michel Sardou en 1977.
L'année 1977.
Cette année-là, Albert Spaggiari, le soi-disant cerveau du casse du siècle, fait parler de lui. Spaggiari, pour ceux qui suivent le fait divers mollement, je vous le raconte en 5 lignes, L'année précédente, il a fait partie d'une bande de truands qui a creusé un tunnel pour braquer la Société Générale à Nice. Le cas a rapporté à la bande 46 millions de francs. Padjari a été arrêté 3 mois plus tard. Il est devenu une petite vedette, le soi-disant auteur du casse du siècle, sans armes ni violence. Et voilà donc que le 17 mars 1977, Albert se fait la malle. Comment ? Par hélicoptère ? Que nenni ! Il se tire de chez le juge d'instruction, toujours sans armes ni violence. Son avocat Jacques Perra était là, et il raconte sur Europe numéro 1.
Nous étions que tous les trois dans le cabinet à ce moment-là, le juge, et de l'autre côté du bureau, Spaggiari bien sûr, et moi-même à côté. Et Spaggiari, oui c'est cela, Spaggiari s'est levé en disant au juge, ah ben tiens, monsieur le juge, vous m'aviez demandé les plans de l'égout et je vous les ai dessinés. Et il a sorti effectivement un papier plié de sa poche intérieure de veste, qu'il a déposé sur le bureau en face de monsieur le juge Boisdiz. Il y a eu un échange, là je ne participais pas, à ce moment-là j'étais occupé à chercher quelque chose dans ma serviette, il y a eu un échange, je crois que le juge lui a dit, mais où situez-vous exactement le palais des expositions? Il a dit, ne bougez pas, je vais vous montrer. Et il a fait le tour du bureau à ce moment-là. Il s'est tenu quelques instants auprès du juge, et d'un seul coup d'un seul, il a fait un demi-tour. La fenêtre était derrière lui, qui était pourtant fermée. Il l'a ouverte, il a enjambé le rebord de la fenêtre, et s'est jeté dans le vide. Tout ceci durant une seconde, un espace de temps qui n'a permis absolument aucune parade du juge. Moi-même, je crois que j'ai crié bêtement, stupidement, non, non.
Le lendemain de l'évasion de Spaggiari, le journal de midi d'André Arnault, sur Europe numéro 1, ne parle que de ça. Et c'est savoureux.
Elle est assez phénoménale, cette évasion de Spaggiari à Nice. Voilà un bandit qui a conçu et réalisé avec toute une équipe le cambriolage de la Société Générale à Nice, de la banque, en passant par les égouts. Un butin fabuleux de plusieurs milliards anciens est certainement bien à l'abri. Et Spaggiari, arrêté et confondu, était évidemment étroitement surveillé chaque fois qu'on le conduisait chez le juge d'instruction pour parfaire l'information ouverte contre lui. Or, il a organisé son évasion de telle sorte que les choses se passent le plus simplement possible. Et c'est ainsi qu'elles se sont passées. Spaggiari s'était levé pour expliquer au juge dans son bureau le plan des égouts qui jouxte la banque cambriolée à Nice. Tout en parlant, Spaggiari a gagné la fenêtre, l'a ouverte, a sauté de 6 mètres de haut, c'est un ancien para, s'est reçu à pieds joints sur le toit d'une voiture, et puis il a enfourché une puissante motocyclette sur le siège arrière, car il y avait là, prêt à démarrer, un motard qui ne passait pas là par hasard. Alors, bien sûr, les routes ont été barrées autour de Nice, la frontière est en surveillance, les aéroports aussi, et puis, un inspecteur général de la police est arrivé à Nice pour tenter de voir comment et avec quelles complicités éventuelles Spaggiari a pu préparer cette évasion. Les dernières nouvelles de Nice par Bernard Langlois.
Où en sont les recherches au point mort? Où est Albert Spaggiari? Lui seul et ses amis le savent. Où est Madame Spaggiari? Là, pas de mystère, en vacances au cœur de l'Afrique, dans le pays de l'empereur Bokassa Ier. Depuis hier soir, le grand branle-bas des indicateurs et la valse des perquisitions et des descentes de police bat son plein à Nice et dans l'arrière-pays. Sans aucun résultat, les policiers ne se font d'ailleurs guère d'illusions. Une évasion aussi minutieusement préparée et réussie a pour débouché une planque à toute épreuve d'où il ne sera pas facile de débusquer Monsieur Albert. Une hypothèse est même avancée ce matin. 20 minutes se sont écoulées entre la fuite du cerveau et la mise en place de l'état d'alerte. Barrage sur les routes, filtrage aux frontières et aux aéroports. Or, sur sa moto, Spaggiari a très bien pu gagner en moins de 10 minutes l'aéroport de Nice et sauter dans un avion en partance. Il aurait suffi que tout soit prêt. Faux papiers, billets, une paire de lunettes noires, une fausse moustache et le tour est joué. 16h50, Spaggiari saute par la fenêtre. 17h05, l'avion pour Zurich décolle de l'aéroport de Nice, qui n'est pas encore alerté. Cela fait très juste, bien sûr, c'est risqué, mais après tout, c'est possible, une simple hypothèse. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, moins de 24 heures après la spectaculaire cavale, qui, il faut bien le dire, fait naître plus de sourires que de réprobations scandalisées, sauf chez les policiers, bien sûr, qui réagissent, selon leur tempérament, sur le mode furieux ou goguenard. Voilà ce qui arrive, disent-ils, lorsqu'un juge d'instruction fait ami-ami avec un inculpé. On nous enquiquine assez avec nos prétendues brutalités policières. Les amabilités judiciaires n'ont pas que leur bon côté.
L'évasion de Spaggiari est un sale coup, bien monté. Bon, ça surprend, mais l'évasion est le rêve de tous ceux que l'on met en prison. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que des bandits plus malins que les autres trouvent la faille pour faire la belle. Vous avez, Frédéric Potcher, un beau catalogue d'évasions célèbres.
Ah oui, j'ai un très beau catalogue. Moi-même, je me suis évadé d'un camp de prisonniers, j'en suis pas peu fier.
Prisonnier de guerre.
De guerre, bien entendu. Ce que je veux rappeler d'abord, c'est qu'il y a eu le fameux Latude, qui est pour nous un des plus vieux évadés. Il réussit à filer 3 fois pendant les 35 ans qu'il vécut à la Bastille. Au palais justice de Douai, dans la cave à charbon, on m'a montré un vasistas auquel il manque un barreau. Eh bien, figurez-vous que par cet étroit passage, Vidocq, eh oui, le grand Vidocq, se jeta dans la scarpe qui coule juste au-dessous. Évasion réussie. Un autre, Armand Spillers, qui eut avant 1939 d'incroyables aventures judiciaires, s'est évadé 9 fois, mon bon André, 9 fois de diverses prisons. Et 2 fois du bagne de Cayenne.
Ah, c'est extraordinaire.
Oui, où il a rédigé des mémoires qui valent bien ceux de Papillon.
Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier, en effet, Frédéric Potcher, que la plupart de ces évadés sont dangereux. La performance peut donner à surprise, et même, elle prête à rire parfois, mais il faut très vite se souvenir qu'il s'agit la plupart du temps de bandits dangereux, et il est bon que la police les reprenne, ce qui arrive quand même assez souvent.
Mais ils sont presque toujours repris.
Alors, pour Spaggiari, eh bien là, nous ne savons pas, les recherches sont difficiles à Nice, Bernard Langlois nous l'a dit dès le début de ce journal, mais Spaggiari, celui qui a été la tête pensante de ce cambriolage formidable de la Société Générale, plusieurs milliards volés, hein, Spaggiari, pour l'instant, on ne sait pas où il est, il s'est évadé hier. Il est 1h09, information en 4 reportages, la suite du journal dans un instant.
Un vendredi, avec les chocolats de Lindt, c'est un jour de douceur. Imaginez du chocolat, de la crème et des amandes. Avec Lindt, tous les secrets des chocolats fourrés de Lindt, chaque carré est une bien jolie surprise qui donne envie d'aimer tous les grands chocolats fourrés de Lindt. Pour un vendredi de douceur exquise. Lindt choisit toujours ce qu'il y a de meilleur pour faire les meilleurs chocolats.
1977, Ondelat raconte sur Europe 1.
En mars 1977, un livre autobiographique fait grand bruit. Celui de l'ex-ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine. Titre du livre, Instinct de mort. Le gangster a écrit son bouquin dans le quartier de haute sécurité de la prison de la Santé. Et dedans, il raconte sa vie de cavale, de braquage et d'enlèvement qui l'aurait amené à tuer 2 gardes forestiers au Canada. C'est un crime que personne ne lui avait jamais attribué. Et donc ça sent le mytho, quoi. Bref, le 3 mai 1977, le voilà devant la cour d'assises de Paris. Aucun crime de sang à lui reprocher, mais des crimes tout de même. Menace de mort, vol, violence avec arme, tentative d'homicide volontaire sur agent de la force publique, prise d'otage et évasion. Les auditeurs d'Europe numéro 1 ont la chance de suivre ce procès par la voix du plus célèbre des chroniqueurs judiciaires, Frédéric Potcher.
L'heure de la fiction et du roman noir est passée. C'est à présent celle de la justice pour Jacques Mesrine. Athlète brun, âgé de 41 ans, fils d'honnête artisan parisien. Intelligent, jouissant d'une excellente santé, Mesrine aurait pu, à la suite de son père, devenir un commerçant honorable. Mais c'est plus facile de dégringoler lorsqu'on est, comme lui, paresseux, dépourvu de sens moral et pourri par des prétentions et un orgueil incommensurable. Le procès de Jacques Mesrine, de sa concubine Jeanne Schneider et de ses complices, qui durera jusqu'au 21 mai, montrera comment, après une jeunesse normale, un service militaire normal accompli en Algérie, Jacques Mesrine a basculé dans la délinquance.
Évidemment, avec un accusé de la trempe de Mesrine, le procès se déroule sous haute surveillance. Et Mesrine, bien sûr, est plutôt à l'aise dans son rôle.
Je crois que Jacques Mesrine, on ne dit pas Mesrine, on dit Mérine, n'est pas malheureux d'être dans le box. C'est en tout cas un accusé que la honte n'atteint pas. Il est grand, bel homme, et il le sait. Il est brun, il a les yeux noirs, ronds, finaux. Il est fort bien habillé, rien de voyant. Les greffiers se relaient pour la lecture interminable, au moins 4 heures, des actes de renvoi devant la cour. Presque toute la vie de Mérine y est retracée. Les séjours à Genève, en Espagne, à Caracas et au Canada y sont mentionnés. Les 14 agressions contre des banques qui sont décrites, l'évasion du palais de justice de Compiègne, le cambriolage à Paris suivi de violences de la maison de couture Courtessy, les vols et cambriolages de Chamonix, en tout 17 chefs d'inculpation. Tous les faits criminels évoqués sont passibles, ou presque tous, sont passibles de la peine de mort. Mesrine le sait, mais peu lui chaud. Il sourit ironiquement de certains détails évoqués dans la procédure. Mais de tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous entendons plutôt, il n'y a aucun meurtre et en vérité, il y a très peu de sang.
Au cours du procès, Mesrine fait un coup d'éclat. Il fait la démonstration de la corruption de l'administration pénitentiaire.
Le procès est peut-être l'un des derniers actes publics, de sa vie. Et par conséquent, il en profite. Et dire qu'on peut faire des empreintes de clés, par exemple avec de la mie de pain, c'est vraiment pas difficile. Recopier ensuite cette empreinte de mie de pain qui a séché sur un bout de papier et dire « je l'ai acheté 3000 francs », c'est faisable. Et ce qui est plus grave, c'est simplement de profiter de cette tribune pour dénaturer, pour insulter une fois de plus le personnel pénitentiaire qui n'en peut mais. D'ailleurs, écoutez, s'il avait vraiment tout ce qu'il dit, comment se fait-il qu'il est encore resté en prison? Deuxième chose, fait-on le procès de Mérine ou celui de l'administration pénitentiaire?
Le personnel pénitentiaire que vous représentez n'est-il pas énervé, excédé?
Je dois dire que la première réaction, c'est évidemment une réaction de colère. Mais vous savez, nous sommes habitués dans les prisons à faire exécuter les sentences pénales. Donc répondre à la provocation par d'autres provocations, ça ne nous paraît pas être la solution.
Vous avez quand même là affaire à un personnage hors série.
C'est évident, mais c'est le risque normal de ce métier-là. Les provocateurs, on les trouve dans le métro aussi.
Le 19 mai 1977, après deux semaines de procès, Jacques Mesrine est condamné à 20 ans de prison pour vol à main armée, recel et port d'armes. Et tout le monde retient son côté showman et fantasque. La vie du gangster semble plus forte qu'une fiction. Et évidemment, le cinéma lui fait les yeux doux. Le premier à sentir le coup, c'est Bébel, Jean-Paul Belmondo. En 1977, il achète les droits du livre de Mesrine, Instinct de mort, pour l'adapter au cinéma. Et il s'en explique sur Europe numéro 1.
On est dans une société de violence, dans une société de gens qui sont perdus. C'est de l'hypocrisie de ne pas vouloir montrer ça aussi. Donc ça fait partie du cinéma aussi de montrer la société comme elle est. Et comment peut-être un homme est arrivé à ce point-là par la société peut-être aussi.
Mais si vous êtes Jacques Mérine dans le film, ce sera quand même un héros sympathique, bien que gangster.
Dans tous ces personnages, si vous voulez, c'est comme quand j'ai joué Stavisky. C'était un escroc qui a failli faire tomber la France, mais il était sympathique, sinon il ne serait pas arrivé là où il était non plus. C'est bien le danger de ces personnages, disons, c'est qu'ils sont sympathiques, c'est exact, mais on montre les faits. Si vous voulez, à même titre que quand les gens ont acheté Papillon, ça n'a choqué personne, Papillon. Bon, mais Papillon aussi avait un lourd passé, et Papillon a été, je crois, à l'époque, a vu Pompidou, et Papillon donnait son avis sur tout, et ça ne choquait pas les gens.
Je vais vous faire hurler en vous disant que vous allez faire un film léger et commercial sur un sujet grave.
Oui, mais on ne fera pas pas léger commercial. Vous savez, ça, c'est une erreur. Et en ce moment, le terrorisme est là-dessus, intellectuel. C'est que si vous ne faites pas des films où on ne comprend rien du tout, vous êtes taxé de légèreté. Et alors, on vous fait des films intellectuels ou soi-disant intellectuels obscurs auxquels on ne comprend rien du tout et auxquels on donne des grandes idées définitive et profonde, et ça emmerde profondément les gens.
Le duo de scénaristes pressentis, Michel Audiard et Patrick Modiano, prometteurs. Mais finalement, le projet restera à l'état de projet. C'est que l'oiseau vient d'être condamné tout de même. Faire un film à sa gloire pose un léger problème de morale. On ne verra donc jamais Bébel dans la peau de Mesrine.
Must be funny in the rich man's world.
c'était Monet, d'Abba.
1977, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Le 6 avril 1977, la gendarmerie de Périgueux met la main sur un voleur très particulier.
Alblas Ray Périgourdin de 37 ans est collectionneur de nature, mais apparemment chez lui ce ne sont pas les papillons ou les timbres qui ont sa faveur. Jugé plus tôt, en 2 ans, il a volé 1,5 tonne de linge dans les jardins de Périgueux. Il ne prenait que du linge sec et sitôt rentré chez lui avec son butin, il le repassait et le rangeait très convenablement dans des cartons. Les gendarmes ont arrêté hier ce collectionneur d'un genre très particulier et il a fallu 3 estafettes pleines à ras-bord pour tout déménager. Dans une pièce de la gendarmerie, transformée en véritable bric-à-brac, j'ai pu aider des enquêteurs faire des comptes. Ont été retrouvés 100 paires de draps, 172 serviettes de toilette, 100 chemises, des rideaux, des couvertures, des chemises et quantité de sous-vêtements féminins, dont 200 soutiens-gorge. Cette manie a fait au moins depuis 2 ans et demi une centaine de victimes. Alors aujourd'hui, vont défiler les périgourdines à la recherche de leur linge. Et ce ne sera pas une mince affaire lorsque l'on sait qu'il a fallu 7 gendarmes travaillant pendant 4 heures pour tout inventorier.
Le patron de la gendarmerie locale accepte de s'expliquer sur ce kleptomane fétichiste du linge de maison.
Il volait donc le linge sur les fils et au cours de la nuit avec sa voiture personnelle. Et parmi ce linge, s'il y en avait qui était sec, arrivé chez lui, il le repassait. Et puis, il avait des cartons tout prêts, où par catégorie, serviettes avec les serviettes, draps avec les draps, et ainsi de suite, tout était rangé convenablement, et dans un coin, là où on les a trouvés.
Alors, dans quel but? C'était pour le revendre?
Ah, pour le moment, actuellement, l'enquête ne peut pas, on ne peut pas déterminer exactement le but de...
Est-ce qu'il était axé sur une forme de linge? Parce que je vois des draps, je vois des sous-vêtements, je vois des chemises.
Ah oui, sous-vêtements... féminin, oui. Il y a 200 slips, 200 soutiens-gorge féminins, une centaine de slips hommes.
Alors, mais pour ranger tout ce linge chez lui, il lui fallait quand même de la place.
Ah non, c'était empiler les cartons les uns sur les autres. Vous savez, ça prend pas beaucoup de place.
Tout était parfaitement rangé.
Ah oui, c'était impeccable.
Cette même année 1977, un éditeur de revue, olé olé, et même très haute, fait une drôle d'expérience avec les gendarmes.
Il y a 2 ans, je transportais des livres pornographiques pour quelques libraires qui se trouvaient dans l'est de la France. Et un matin, vers 8h30, sur une route nationale, je tombe en panne d'essence. Je vois arriver près de moi 2 gendarmes qui, gentiment, vont chercher de l'essence pour moi, à peu près 2 ou 3 kilomètres, au patelin à côté. Et voulant remercier ces braves personnes qui m'avaient rendu service, je me propose de leur offrir quelques-unes des revues qui étaient dans ma voiture. Je leur offre 2 revues et ils désiraient des revues d'un genre un petit peu plus spécial que je me suis promis, bien sûr, de leur offrir. Je les avais envoyés par la poste environ 8 jours après. Ils ont dû sûrement avoir des problèmes et faire suivre cette affaire au parquet de Bar-le-Duc.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez été convoqué par un juge d'instruction et vous avez cru que c'était une blague.
Oui, bien sûr. Le juge d'instruction de Bar-le-Duc m'avait convoqué plusieurs fois par la suite, me demandant bien sûr des explications sur cette affaire. Pensant que c'était une plaisanterie, je n'ai pas répondu à ces convocations.
Erreur! Ça n'est pas un canular. Il est réellement convoqué devant la justice. Et comme il ne répond pas, un matin, 2 gendarmes viennent le cueillir chez lui, à Paris. Et les gendarmes l'embarquent menottes au poignet vers Bar-le-Duc. Et au bout de 4 jours de tôle, il voit enfin une juge.
Je me suis trouvé une soirée à la cité, une journée à la prison de la santé. J'ai voyagé dans le train en compagnie de 2 gendarmes, menottes aux mains bien sûr, pour une audience de madame le juge d'instruction qui a duré environ 10 minutes, et qui voulait simplement m'entendre dire que j'avais bien donné ces 2 revues aux gendarmes, et je trouve ça vraiment très très drôle.
Et alors finalement maintenant vous êtes condamné?
Oui, je suis condamné à une somme de 5000 francs à payer, mais je crois que je vais le régler parce que ça les vaut.
1977, Ondelatte raconte sur Europe 1.
En 1977, la musique est vraiment bonne. Cette année-là, sort l'un des titres rock les plus célèbres du monde et de tous les temps. Hotel California, des Eagles. Oh, ne me dites pas que vous n'avez pas enlacé un ou une partenaire là-dessus. Roulez une pelle, galochez un peu. Le tube se vend à 1,5 million d'exemplaires. Et dans les archives d'Europe 1, j'ai retrouvé une interview du guitariste des Eagles, Don Felder. C'est lui qui a eu l'idée de la musique à Malibu, en Californie, où il avait loué une maison sur la plage.
C'est une très belle journée d'été et je suis sur le canapé en train de jouer de la guitare. Et dehors, je vois mes deux enfants qui s'amusent. Ils ont 3 ans et 1 an et demi. Ils font des châteaux de sable, ils montent sur la balançoire, enfin vous savez, comme tous les enfants. Donc je vais les rejoindre sur la plage et je regarde les reflets du soleil de Californie dans l'océan Pacifique. Vraiment une journée magnifique. Et là, je me mets à jouer cette suite d'accord. C'est venu comme ça. Je me suis dit, oh, il faut que je recommence, encore et encore. Puis je suis retourné dans la maison et je me suis enfermé dans la petite chambre de ma fille avec un magnéto. J'ai improvisé un studio et j'ai enregistré cette suite d'accords pour être certain de ne pas l'oublier. C'est ainsi que tout a commencé.
Il y a souvent eu un malentendu au sujet de cette chanson. Ceux qui ne parlent pas anglais l'ont prise pour une ballade mélancolique et légère. Mais en vérité, les paroles sont terribles. Elle raconte la fuite d'un homme enfermé entre les quatre murs d'un hôtel, ce qui, en réalité, est une métaphore. L'hôtel serait un centre de désintoxication. Et l'homme ne parvient pas à s'échapper. Il le rêve seulement. Ce titre colle parfaitement aux années 70 en Californie. Excès et défonce. Il faut savoir que le groupe se bat pour imposer ce nouveau titre. Parce que la maison de disques n'y croit pas, figurez-vous. Mais vous êtes fous! 6 minutes, en fait, ça ne passera jamais à la radio, ni à la télévision. Comment tu peux cartonner sans eux? Mais les Eagles ne céderont pas aux télé et aux radios de s'adapter. Et c'est pourquoi, la première fois que le clip est diffusé à la télé française, dans les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker, il est réduit de moitié. 3 minutes au lieu de 6. Quoi qu'il en soit, Hotel California devient un carton planétaire. Et pour l'éternité. C'était bien sûr Hotel California du groupe Eagles en 1977. C'est la fin de ce premier épisode. Je remercie Guillaume Maury et Julien Pichenet et Guillaume Vasseau pour la réalisation. Sans oublier l'équipe de Sylvain Denis à la documentation d'Europe 1. La suite de notre série consacrée à l'année 1977 dans le deuxième épisode dont la traconte une année.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.